Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre tout au long de cette émission, poser vos questions à nos spécialistes ou nous parler de cette thématique. Nous parlons en nutrition et ramadan aujourd'hui. Alors ça y est, nous y sommes, le mois sacré du ramadan a débuté. Ce matin, nous parlons donc avec nos invités de nutrition dans cette période où jeûne et surconsommation alimentaire se confrontent. En effet, paradoxalement, la période du jeûne est symbole de hausse de la consommation alimentaire. Plus on jeûne et plus on mange. Cette accumulation d'aliments ne met-elle pas en danger l'équilibre alimentaire? Le corps supporte-t-il bien ce changement radical de mode d'alimentation? Que peut-on conseiller à nos auditeurs s'ils ont envie de se faire plaisir après une journée difficile? Que peuvent-ils manger et en quelle quantité? Du côté nutritif et équilibre alimentaire, quels sont les plats conseillés pour le soir? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce matin avec nos invités. D'abord sur le plateau de la radio africaine, Fatima Ouladj. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré votre extinction de voix. J'espère qu'on va pouvoir vous entendre. Vous êtes nutritionniste et spécialiste de la nutrition en islam et vous êtes co-auteur du livre « La nutrition en islam » séparé aux éditions Maison des Nours. On y reviendra tout à l'heure. Et au téléphone, nous accompagne Stéphane Besançon. Bonjour, merci de nous rejoindre Stéphane Besançon. Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Vous êtes en direct du Mali. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on commence avec la première question. Comment le corps supporte-t-il ce déséquilibre entre privation et faim? Est-il possible de concilier religion et bon équilibre alimentaire? La question, c'est pour vous, Stéphane Besançon.
Oui, tout à fait. Alors, la question de base est de savoir comment on fait les choses. Si d'un seul coup, on déséquilibre complètement et on passe dans une journée avec une restriction totale et qu'après le soir, on a des repas en surabondance et en suralimentation, là, on va pouvoir créer des problèmes. Mais si la programmation est bien faite au sens de se préparer et d'avoir une alimentation qui continue à être équilibrée même si elle est répartie autrement dans la journée, parce que c'est ça en fait l'idée, le corps peut réagir très très bien sans difficulté, bien sûr pour des gens qui n'ont pas de problème de santé particulier, donc là il y a une adaptation particulière médicale qu'il faut mettre en place. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier, si c'est juste un rééquilibre alimentaire avec une réorganisation de la journée, ça ne pose pas de problème.
Oui, puisque c'est vrai que pendant cette période de privation, Stéphane Besançon, lorsque l'on est privé tout au long de la journée, le soir, on a envie de se jeter sur la nourriture. Alors que se passe-t-il à l'intérieur du corps pendant cette période où on sait qu'on va pouvoir manger et que ça y est, c'est parti?
J'allais dire que le corps, il réagit maintenant. À un moment, il y a une privation, donc il va recapter quand le moment où on peut manger va revenir. Donc c'est là où les choses doivent être faites correctement, pour justement pas travailler sur ces mécanismes d'alerte et de recompensation trop fortes qui vont avoir tendance à pouvoir, eux, créer des problèmes métaboliques. Mais si, de nouveau, je redis la même chose, si à ce moment-là, au moment où on peut remanger, on remange par étapes correctement et qu'il n'y a pas une suralimentation qui se met en place, parce que c'est de ça dont on parle et c'est ça souvent le gros problème, c'est que c'est pas lié que à la faim et au retour de l'aliment et les gens mangent beaucoup, c'est lié surtout au contexte social en fait. C'est une fête, le mois de ramadan, oui, le soir il y a beaucoup de fêtes, donc la suralimentation pour moi est plus liée au partage social et à la fête souvent que au besoin de manger vite vite parce qu'on n'a pas mangé toute la journée.
Alors, durant la période de ramadan, on oublie souvent la question de l'hydratation, mais c'est important d'insister sur l'hydratation, puisque on ne boit pas tout au long de la journée, c'est peut-être le plus difficile, surtout en cette période où il commence à faire chaud, Stéphane Besançon.
Oui, alors c'est effectivement, moi je dirais plus qu'important, je dirais c'est absolument central, parce que c'est le sujet dont on parle souvent peu, puisque quand on parle d'alimentation, on oublie très 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 souvent l'hydratation. Et on est sur des périodes, alors le ramadan court sur le calendrier, ça dépend des années, oui. Mais par exemple cette année on va être en mai-juin, pour beaucoup de pays c'est une période où la longueur du jeûne va être plus longue ou très longue, et en plus il fait très très chaud, donc l'hydratation dans les périodes où on a le droit de s'hydrater est absolument centrale, et il faut bien surveiller les personnes à fragile ou à risque, hein, notamment les personnes âgées, etc., pour éviter absolument des déshydratations qui pourraient être dramatiques, puisque vous savez qu'une déshydratation sévère peut conduire à des conséquences santé très graves.
Ça veut dire qu'à partir à partir de l'heure de la rupture du jeûne jusqu'au matin, on doit essayer de boire le plus possible en fractionnant en fait les portions d'eau.
Oui, il faut absolument se réhydrater énormément en quantité, mais éviter une réhydratation en un seul coup, parce qu'on sait, c'est comme exactement comme pour les sportifs. On sait que s'hydrater, prendre énormément d'eau d'un seul coup, ça peut créer des maux de ventre et ça peut être désagréable. Donc, il faut fractionner cette hydratation, mais absolument reprendre du volume quand même, parce qu'il va falloir après tenir la journée et rappeler, parce que ça, il faut le rappeler tout le temps, que quand on parle d'hydratation, la boisson obligatoire, c'est l'eau. Et que donc, il ne faut pas faire une réhydratation comme c'est une période de fête avec des boissons gazeuses. Alors, on peut en boire une, on peut en boire de temps en temps. C'est l'idée n'est pas de dire qu'il faut les supprimer complètement à 100%, mais ça doit être une exception et l'hydratation doit se faire avec de l'eau. Ça, c'est absolument central.
Un mot peut-être, Fatima Ouladj ?
Oui, la question de l'hydratation va être importante puisqu'elle va également éviter d'avoir des problèmes type maux de tête, constipation, problèmes urinaires. Donc c'est vrai que la question de l'hydratation est centrale. Donc on va avoir l'eau qui est la seule boisson qui hydrate réellement, ouais. Alors que vous allez avoir des boissons comme le thé ou le café qui sont en réalité diurétiques, c'est-à-dire qui ne vont pas hydrater correctement la personne.
Alors, dans le cas des personnes atteintes de diabète, hein, puisque c'est votre spécialité, hein, Stéphane Besançon, l'alternance entre abstinence et excès alimentaire nocturne peut perturber la glycémie.
Oui, tout à fait. Alors là, on change un peu de registre dans le sens où là, on est vraiment sur une maladie chronique qui nécessite, dont l'alimentation, le traitement, tout est lié, pour arriver à avoir un équilibre de vie correct, un équilibre glycémique correct. Et là, on a absolument besoin, dans la majorité des cas, d'un avis médical. C'est-à-dire, l'avis médical, il n'est pas forcément, parce que les gens se disent toujours « Ah ben non, je ne veux pas d'avis médical parce qu'on va m'interdire de jeûner, etc. » Ce n'est pas forcément le cas. L'avis médical, il est aussi pour planifier correctement par rapport au traitement, parce qu'aujourd'hui, sur le diabète, il n'y a pas un traitement, il n'y a pas que de l'insuline ou que des comprimés. Oui. Il y a une grande, grande palette de traitements. En fonction de ces traitements, l'adaptation de l'alimentation n'est pas forcément la même, donc c'est ça qui est absolument central. Quand on parle d'avis médical, c'est pas juste pour avoir un feu vert ou un feu rouge sur le jeûne, mais c'est pour le préparer dans de bonnes conditions et qu'il se déroule dans de bonnes conditions, et que tous les signaux d'alerte aussi soient mis en place au cas où le jeûne se passe pas très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe pas très bien? Ça veut dire un déséquilibre du diabète qui fait qu'à un moment, il faudra se poser la question de continuer, pas continuer, changer quelque chose, réadapter son plan alimentaire. Donc ça, j'insiste, c'est absolument, absolument central. Par contre, il y aura quand même le médecin qui va à un moment, suivant le type de diabète, suivant comment est équilibré le diabète ou pas, donner un feu vert ou un feu rouge pour jeûner. Mais c'est pas que ça. Il y a des gens qui ont un feu vert pour faire le jeûne, mais sur qui il faut aussi une planification pour que ce jeûne se passe bien.
Alors justement, Fatima Ouladj, on va peut-être répondre à cette question avec vous. Dans quel cas le ramadan est-il déconseillé selon les maladies, etc. Alors, à qui est-il déconseillé le ramadan, Fatima Ouladj?
Alors là, c'est vraiment un avis médical qui va être nécessaire, puisqu'il y a différents facteurs de risque qui vont être pris en compte. Donc c'est vraiment du cas par cas. Ouais. On peut pas donner des généralités pour dire pour telle ou telle pathologie, on jeûne ou non, ou on ne jeûne pas. On va vraiment tenir compte de la spécificité de la personne.
Stéphane Besançon?
Oui, non, c'est tout à fait ça. Hein. C'est très très compliqué en fait de faire des généralités. On parlait du diabète tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sur le diabète, par exemple, dire c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Il va falloir vraiment voir patient par patient, type de traitement par type de traitement, profil aussi. Si on a 40 ans ou 80 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc j'allais dire que c'est très difficile à l'antenne de faire une recommandation généraliste. Par contre, la recommandation généraliste qu'on peut faire, l'unique, c'est de dire en cas de pathologie, notamment les pathologies chroniques, il faut absolument un avis médical et pas le prendre 3 jours avant de commencer. Il faut le prendre 3 semaines à 1 mois avant de commencer pour pouvoir se préparer dans de bonnes conditions aussi.
Alors, il y a une autre tendance, on va en parler rapidement, vous l'abordez dans votre ouvrage « La nutrition en islam », Fatima Ouladj, la surconsommation pendant cette période. C'est vrai que dans la quasi-totalité des pays musulmans, le mois de Ramadan rime malheureusement des fois avec haute consommation, hausse considérable des dépenses, consommation effrénée, gaspillage, etc. Et c'est vrai que c'est une problématique que vous abordez dans votre ouvrage, Fatima Ouladj.
Exactement, puisque le mois du Ramadan se veut un mois qui est spirituel. Donc on pourrait supposer qu'avec un repas en moins dans la journée, on mange moins. Sauf que dans la réalité, on mange plus. Donc il y a un contresens. Et on sait pertinemment que passer sa journée à cuisiner et passer sa soirée à manger, bah ça va laisser moins de temps pour le côté spirituel du mois du Ramadan.
Et surtout, Stéphane Besançon, que les apports alimentaires augmentent de manière spectaculaire dans un laps de temps court. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que les gens mangent plus que, en fait, au lieu de manger moins, ce qui serait peut-être un peu plus logique en se disant que la période où on mange est plus restreinte, ramener ça aussi à la religion, à l'esprit qu'il y a derrière, de faire les choses avec modération et tout ça, on pourrait penser que du coup l'apport alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on va ingérer, est plus faible qu'en période normale. Et en fait, dans une majorité des études, parce qu'il y a toujours des gens qui respectent ça, mais on se rend compte que dans une majorité des études aujourd'hui, on est plutôt en surnutrition, c'est-à-dire que les gens, pendant le Ramadan, au lieu de manger moins, vont manger plus. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi lié à l'aspect social et à l'aspect festif.
Oui, oui.
On connaît ça dans d'autres religions, dans d'autres types de fêtes, qu'en général, les périodes festives sont des périodes où il y a souvent suralimentation. À part que là, la différence avec d'autres types de fêtes, c'est que ça dure un mois. Donc c'est vrai qu'une suralimentation pendant un mois n'a pas les mêmes conséquences qu'une suralimentation pendant trois jours.
Alors maintenant, un petit peu plus de précision sur les aliments à favoriser lorsque l'on rompt le jeûne. Et puis on parlera également des aliments à favoriser au repas de l'aube, puisque c'est un premier repas qui est très important, car il doit permettre d'accumuler l'énergie nécessaire pour que le corps puisse tenir tout au long de la journée de jeûne. Alors Fatima Oulaj, quels sont les aliments à favoriser lorsque l'on rompt le jeûne? C'est vrai que dans votre ouvrage, il y a des fiches par aliments, avec différents aliments, des références aux textes sacrés notamment. Alors dites-nous un petit peu quels sont les éléments qu'on doit favoriser lorsque l'on rompt le jeûne.
Alors en fait, l'idée, c'est d'essayer de garder ce qu'on appelle un équilibre alimentaire, c'est-à-dire ne pas supprimer une catégorie d'aliments. Or, on sait que le déséquilibre pendant le mois du Ramadan, on va avoir une surreprésentation de certaines catégories d'aliments qui du coup vont entraîner une sous-consommation d'autres aliments. Donc l'idée, si vous voulez, les deux points faibles que l'on va retrouver, c'est le manque d'hydratation.
Ouais, le manque d'hydratation.
Mais c'est également le manque de végétaux, de fruits et de légumes. Alors quand on parle de fruits, je ne parle pas de jus de fruits, je parle de fruits entiers. Hein. Il vaut mieux manger le fruit que boire son jus. Et pour ce qui est des légumes, eh ben c'est vrai que c'est pas un aliment qui va être attirant pendant le mois du Ramadan, mais c'est un aliment qui n'est pas à négliger, puisqu'en fait, plus vos repas vont être équilibrés, et plus ça va jouer sur l'index glycémique du repas. C'est-à-dire, ça va permettre à ce que la faim ne revienne pas trop vite.
Stéphane Besançon, un complément d'information ou d'autres choses à dire ?
Non, je pense que ça, la majorité des choses ont été dites. Après, ce qu'il faut redire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le profil alimentaire, c'est-à-dire plus là maintenant, pas la quantité, mais le type de nutriments, on se rend compte qu'on est beaucoup sur des profils très gras, très sucrés pendant cette période. Et donc, comme l'a dit Madame Oulaj, il faut revenir, enfin garder plutôt, même pas revenir à une alimentation équilibrée où cette part des sucres, et notamment les sucres simples, hein, ça va être toutes les pâtisseries, les gâteaux et les boissons sucrées, etc., gardent une part raisonnable dans l'alimentation pour pas que d'un seul coup, on ait une alimentation sursucrée, sachant que les sucres simples, en plus, vont être à absorption extrêmement rapide dans une période où on a besoin de reconstituer des réserves et à ce que l'organisme puisse faire face après aux périodes de privation pendant quelques heures. Et comme je disais, en ce moment, c'est pas un petit nombre d'heures, puisqu'on est dans une période où les journées sont longues en jeûne, donc il faut absolument reconstituer des réserves importantes.
Au téléphone, c'est une auditrice, Sam, bonjour, merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Bienvenue Sam, nous vous écoutons.
Je vous remercie. Alors, j'entends plus ou moins des choses qui me correspondent, on va dire, au sujet du Ramadan. Moi, personnellement, je garde le fait de consommer notre soupe habituelle, la chorba. chorba où on intègre beaucoup de légumes, du moins de, pour ma part. C'est ce qui nous réchauffe, entre guillemets, l'estomac. Okay. Sauf que depuis, j'ai essayé, on va dire, parce qu'apparemment, il ne faut pas commencer directement par des choses chaudes, des choses salées. J'ai complètement essayé de revisiter, on va dire, ma manière de voir le ramadan, de me nourrir. Du coup, je prépare des petites choses, on va dire, plus fraîches avant. Je vais boire un petit peu d'eau.
Oui.
Essayer de commencer par des fruits secs, une datte. Commencer par vraiment des fruits secs, tout ce qui est noix, tout ce qui va m'apporter un peu plus de force et de vitamines, car le corps est à jeun, il ne faut pas l'oublier. Donc le corps, lorsqu'il est à jeun, il faut lui apporter les meilleures choses dès le début. Il ne faut pas attendre après, donc après c'est trop tard. Et j'ai essayé après, je vais garder, on va dire, mes petites habitudes, mes petites briques, mes petites...
Mais pas d'excès, c'est ça?
Pas du tout. Alors, je suis une personne qui est complètement contre le gaspillage.
Oui.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préparer des repas excessifs parce qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre, faut le dire. Et du coup, ils préparent en quantité astronomique et à la fin, ils mangent que quelques... parce que l'estomac, voilà, il est quand même un peu plus diminué. Donc, du coup, ils vont préparer beaucoup plus de choses, mais en consommer beaucoup moins. Donc, du coup, moi, je suis contre le gaspillage. Je vais préparer exactement une petite quantité pour mon mari et pour moi. Et de toute façon, mes enfants mangent en même temps avec nous.
D'accord.
Donc, je n'aime pas l'excès et le corps n'aime pas l'excès. Faut pas l'oublier aussi. Donc, je prépare vraiment des choses qui me plaisent, mais sans excès et en revisitant un petit peu, en allégeant un petit peu mes plats.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sam, Stéphane Besançon?
Mais je dirais que ce que j'ai dit tout à l'heure pour les vitamines, les minéraux et tout ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut pas oublier que quand on doit jeûner 6, 7, 8 heures, il faut de l'aliment, j'allais dire énergétique, mais pas au sens des graisses qui vont apporter beaucoup d'énergie sur une petite portion, mais juste des glucides en fait, c'est-à-dire à base céréales, racines, tubercules, en quantité suffisante qui vont permettre de constituer les réserves glucides pour tenir la journée et pour être en forme toute la journée. Parce qu'être en forme, ça veut dire aussi pouvoir faire ses activités, pouvoir travailler,
etc. Ouais.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un lien direct dans cette période entre l'alimentation, le si on y arrive, si on, j'allais dire, on arrive bien à s'alimenter et notre capacité dans la journée.
Ouais.
Parce que si l'alimentation est très insuffisante, mais ça, tout le monde a fait cette expérience, si à 5 heures du matin, vous ne mangez pas assez, mais pas du tout assez, pour arriver en forme jusqu'en fin d'après-midi, ça va être quand même très compliqué. Donc il y a ça aussi, il y a tout le côté, le lien de l'alimentation au rapport social, dans le sens du travail, d'échange avec les autres, etc. Donc il est vraiment, vraiment central sur le repas de l'aube du matin, d'apporter suffisamment d'énergie pour que le corps puisse puiser ça progressivement. Alors, il y aura toujours des périodes de faim, de toute façon, parce que c'est des périodes longues de jeûne, mais il faut les minimiser au maximum pour que le corps puisse, lui, gérer ça au mieux.
Fatima Oladj ?
Oui, par rapport à la question de la cuisine, c'est vrai que notre façon de cuisiner va également influer notre confort digestif.
Ouais.
Donc, on sait que si on a une cuisine qui est trop riche en fritures, qui est trop épicé, ou alors si on a trop de boissons gazeuses, bah c'est vrai que ça va majorer tous les inconforts digestifs, puisque ce sont des aliments qui vont apporter des problèmes de régurgitation, de gaz, de ballonnement.
On dort moins bien.
Voilà. Et puis même pour aller prier, ça va pas forcément être le top. Donc c'est vrai que la façon de cuisiner va également influer sur notre état de forme après la rupture.
Merci Sam pour votre appel.
On vous
souhaite un bon ramadan.
Merci.
À très bientôt. Merci beaucoup pour votre appel. On vous souhaite une très bonne journée. C'est Ousmane qui nous rejoint à présent. Alors, une personne asthmatique peut-elle rompre le jeûne si elle doit prendre sa ventoline? Et une autre question, pourquoi les commerçants augmentent leur prix pendant le ramadan? Alors, cette question, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Alors, Stéphane Besançon, vous, Ousmane?
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va, oui.
Alors, pour faire vite, hein, j'ai synthétisé la question. Stéphane Besançon, alors, une personne asthmatique peut-elle rompre le jeûne si elle doit prendre sa ventoline?
Je pense. Alors là, il faut vraiment... moi, je ne suis pas médecin, je suis nutritionniste. Je pense qu'il faut un avis médical là-dessus.
Oui, il aurait fallu demander un imam,
oui. à première vue, l'asthme est régulé, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est très compliqué de donner un avis péremptoire à l'antenne comme ça sur une pathologie comme l'asthme, dont je ne connais pas en plus les détails du dossier médical. Donc, par sécurité, je pense qu'il faut recouper avec un avis médical, ça semble indispensable.
Et l'imam aussi, pour savoir si le fait de prendre de la ventoline rompt le jeûne ou pas.
Alors, une autre question, la question, pourquoi les commerçants rapidement augmentent leur prix pendant le ramadan? Est-ce que c'est le cas, non?
Oui, c'est le cas dans le Maghreb aussi. Hein.
C'est le cas partout, et malheureusement, c'est juste la loi de l'offre et de la demande, il n'y a pas plus d'explication. Hein. C'est un moment où il y a beaucoup de demandes sur certains produits, donc comme il y a beaucoup de demandes, les commerçants ne sont pas bêtes et profitent de ça. Alors, ça pose une vraie question dans les pays musulmans, c'est le cas au Mali, où normalement on doit être sur de la restriction, on doit être sur penser aux pauvres, etc., etc., et où, d'un autre côté, on va faire un bénéfice sur les gens qui veulent fêter leur fête du mois de Ramadan. Donc ça amène une vraie question, mais qui est une question plus ouverte pour des philosophes que pour des nutritionnistes comme nous.
Merci Ousmane pour votre appel.
Alors, de rien.
À très bientôt. Oui, allez-y.
Alors, après, je pense que quelque part, on doit aussi alimenter ça, puisque le fait de surconsommer, on achète beaucoup. Donc, quelque part, on entretient aussi ce système, puisque ouais. C'est un des mois où ils vendent le plus.
Alors, il reste juste 3 petites minutes, peut-être donner des petites clés, des aliments, des idées de repas. Je ne sais pas si vous avez préparé quelque chose, Fatima Oulaj, par exemple, pour couper. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux auditeurs qui nous écoutent?
Moi, je suis partisane des repas traditionnels, vraiment. Donc, la rupture avec une date, un verre de lait fermenté, par exemple, c'est l'idéal. La soupe qui va suivre, c'est l'idéal également. Et puis après, le repas, comme je vous ai dit, doit être le plus équilibré possible avec une hydratation optimale.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer, Stéphane Besançon?
Je suis exactement ça, hein, c'est-à-dire suivre des modèles traditionnels qui quand même étaient adaptés quand on les regarde dans tous les pays, même en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près comme au Maghreb, qui étaient conçus pour répondre à cette demande, à cette période. Donc j'allais dire vraiment revenir à ces modèles traditionnels qui sont très adaptés avec ce que vient de décrire Madame Oulaj.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On vous souhaite un excellent ramadan. On rappelle votre ouvrage, Fatima Oulaj, si vous voulez en parler rapidement. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, spécialiste de la nutrition en islam, co-auteur du livre La nutrition en islam aux éditions Maison des Nours. C'est un manuel en fait avec des fiches qui détaillent un peu les apports énergétiques des différents aliments, les aliments recommandés dans la religion et les titres des textes sacrés notamment. Alors un mot sur l'ouvrage, Fatima Oulaj.
Alors, c'est un ouvrage qui a été co-écrit avec le docteur Hassan Younes et avec Assata Doumbia. Donc, le souhait à travers ce livre, c'était de refaire un petit peu la jonction entre les textes sacrés et les recommandations scientifiques. D'accord. Parce que sur le terrain, on se rendait compte que souvent les gens opposaient l'un et l'autre. C'est-à-dire, ils se basaient sur des hadiths ou sur des versets du Coran pour un petit peu contredire ou contrecarrer ce que le médecin pouvait leur donner comme conseil. Donc nous, l'idée, c'était un petit peu de montrer qu'en fait, les deux allaient dans le même sens et qu'il n'y a pas d'opposition à avoir entre ce que la science nous apporte et ce que les textes sacrés nous apportent.
Merci beaucoup Fatima Oulaj. Merci également pour votre disponibilité Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes du côté du Mali. On vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1.
Bonne journée.
Merci à vous, merci Fatima Oulaj d'être venue. On vous souhaite un excellent ramadan. Merci de votre fidélité. 9h54, la suite d'Ambiance Africa, c'est juste après ceci.